Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi soir, 25 février 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le drone Kaman 22, conçu et fabriqué de A à Z en Iran et marqué par sa portée de 3000 km, a été dévoilé le mercredi 24 février. En Syrie, des terroristes du Front al-Nosra ont attaqué au meurtrier un point de passage et l'ONG Médecins sans frontières confirme l'enlèvement de 4 membres de son équipe médicale dans le centre du Mali. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le drone Kaman 22, conçu et fabriqué de A à Z en Iran et marqué par sa portée de 3000 km, a été dévoilé ce mercredi 24 février. Le général de brigade Aziz Nasirzadeh, commandant de la force aérienne de l'armée iranienne, a déclaré que le drone Kaman 22 était équipé de systèmes de combat, d'optique et de guerre électronique et qu'il avait été conçu et fabriqué conformément aux besoins de la force aérienne. Le Kaman 22 est le premier drone d'assaut à corps large fabriqué par l'Iran qui est capable de porter différents types de charges. L'appareil est en mesure de rester dans le ciel pendant longtemps, plus précisément au-delà de 24 heures et à une portée de 3000 km. Il a donc la capacité d'identifier, de surveiller et de photographier les cibles qui se situent dans les régions lointaines. De plus, équipé de différentes sortes d'armes et de systèmes intelligents, le Kaman 22 possède une capacité de combat remarquable. Le commandant de la force aérienne de l'armée iranienne a souligné que les Iraniens avaient réussi à produire différents types de drones, dont les drones de combat, les drones de reconnaissance et les drones de guerre électronique, ayant chacun une mission particulière. Nous avons acquis des technologies qui nous permettent de produire des drones conformément à nos besoins, a-t-il indiqué. Le 5 janvier 2021, l'armée iranienne a entamé une opération conjointe à grande échelle d'entraînement des drones impliquant plusieurs unités militaires. Cet exercice de 2 jours a impliqué des centaines de drones opérationnels des forces terrestres, aériennes et maritimes. Les drones de fabrication iranienne ont mené des simulations de combat, de surveillance, de reconnaissance et de guerre électronique à courte et à longue portée. Les drones de la marine ont survolé les eaux du sud de l'Iran et les drones suicides à longue portée ont effectué des vols pour détruire des cibles sensibles et vitales dans les profondeurs des territoires de l'ennemi. En visite officielle à Damas, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères et chef du Centre de diplomatie publique et médiatique de l'Iran, M. Saïd Khatibzadeh, a rencontré mercredi le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la Syrie, M. Faisal Mirdad. Les deux parties ont examiné les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer, notamment en ce qui concerne les aspects politiques, médiatiques, scientifiques et culturels, et ont également discuté des derniers développements de la situation dans la région. Ils ont affirmé l'importance de consolider la communication et la consultation entre les deux pays à tous les niveaux pour relancer les relations bilatérales d'une manière compatible avec les intérêts des deux pays amis. Le responsable iranien s'est dit satisfait de sa visite à Damas et a fait allusion aux derniers développements relatifs aux relations bilatérales entre les deux pays dans les différents domaines. Il a réitéré la position de son pays soutenant la Syrie pour parvenir à une solution qui rétablit la sécurité et la stabilité partout en Syrie et préserve sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale. De son côté, le ministre syrien a insisté sur l'importance de conjuguer les efforts entre les deux parties syriennes et iranienne pour faire face aux défis communs qui menacent la sécurité et la paix dans la région, soulignant les impacts inhumains dus aux mesures économiques et coercitives unilatérales imposées au peuple syrien. M. Mirdad a souligné l'importance de développer la coopération bilatérale entre les deux pays pour renforcer les potentiels des deux peuples face aux mesures américaines et occidentales illégales. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères et des expatriés, Bachar Jafari, s'est entretenu mercredi 24 février avec le conseiller Yassine Sharif al-Hajimi, chargé d'affaires de l'ambassade d'Irak à Damas, et la délégation qui l'accompagne de la Fédération des chambres de commerce, présidée par le président de la Fédération des chambres de commerce irakienne, Abdul Razak al-Zuhairi, les derniers développements de la situation politique en Syrie et en Irak. Lors de la rencontre, les deux parties ont examiné la poursuite du renforcement de la coopération économique et commerciale bilatérale au niveau gouvernemental et privé, notamment pour assurer les besoins nécessaires des peuples des deux pays frères. Jafari a souligné la détermination à renforcer la coopération entre les deux pays au profit des intérêts des deux peuples, affirmant l'importance de la rencontre qui a réuni la délégation invitée avec les membres de la Chambre de commerce syrienne dans le but de renforcer les relations commerciales bilatérales et surmonter les difficultés. En outre, Al-Hajimi a insisté sur les relations étroites et profondes entre les deux pays frères et sur l'importance des produits commerciaux et pharmaceutiques syriens par rapport au peuple irakien. Pour sa part, Al-Zuhairi a indiqué que les relations entre les chambres de commerce des deux pays sont étroites, rappelant la position de la Syrie en général et des chambres de commerce en particulier et son rôle important dans le brisement du blocus économique qui était imposé au peuple irakien en 1998. Restons en Syrie où des membres du groupe terroriste Front al-Nosra ont attaqué au meurtrier un point de passage à Saraïb, une ville du gouvernorat d'Idlib, et l'ont en outre visé au moyen d'un drone armé artisanal, annonce la défense russe. Le point de passage de Saraïb est récemment ouvert dans le gouvernorat d'Idlib, a été attaqué au meurtrier et via un drone armé par les terroristes du Front al-Nosra, a rapporté lors d'un point de presse. Ce 24 février, le contre-amiral Vyacheslav Sidnik, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Des membres du groupe terroriste Al-Nusra ont mené le 24 février une attaque au mortier contre le poste de passage de Saraïb et l'ont également frappé avec un drone artisanal, a-t-il déclaré. Les points de passage de Saraïb, Miznas et Abu Azeidine, destinés à assurer la sortie des résidents d'Idlib, ont ouvert le 22 février, a-t-il rappelé. Suite à l'attaque, le commandement russe a pris la décision de faire évacuer le personnel administratif du poste. Selon le contre-amiral Sitnik, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie appelle le commandement des troupes turques contrôlant les territoires du nord-ouest syrien à assurer la sécurité des civils souhaitant se servir des points de passage. L'ONG Médecins sans frontières a confirmé mercredi l'enlèvement de 4 membres de son équipe médicale mardi à Kourou Moussana, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Mardi, aux alentours de 11h, heure locale et GMT, lors de l'installation d'une clinique mobile dans la localité de Kourou-Moussana, deux personnes armées se sont présentées et ont emmené sans violence, mais sous la contrainte, trois de nos collègues ainsi qu'un membre du ministère de la Santé à bord du véhicule de Médecins sans frontières vers une destination inconnue, a indiqué l'ONG. Médecins sans frontières a par ailleurs assuré qu'elle mettait tout en œuvre pour établir le contact avec les quatre personnes interceptées. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré mercredi que l'Égypte était en faveur d'un quartet de médiation pour les négociations sur le grand barrage de la Renaissance GERD de l'Éthiopie en construction sur le Nil Bleu. L'Égypte accepte la proposition soudanaise impliquant les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis, a indiqué dans un communiqué le porte-parole du ministère égyptien Ahmed Hafez. Plus tôt dans la journée, le ministre soudanais de l'Irrigation et des Ressources en eau, Yasser Abbas, a exhorté les parties en négociation à considérer le GERD comme un outil de coopération régionale, plus que comme une source de tension politique entre Khartoum, Addis Abeba et le Caire. La déclaration égyptienne est survenue après une réunion entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et Alphonse Ntoumba Louab, coordinateur de l'unité en charge de la présidence de la République démocratique du Congo au sein de l'Union africaine en visite en Égypte. La seconde mise en eau unilatérale du barrage éthiopien est prévue pour juillet. L'Éthiopie a entamé la construction du grand barrage de la Renaissance en 2011, alors que l'Égypte craint que celui-ci ne réduise sa part annuelle de 55,5 milliards de mètres cubes d'eau du Nil. Le Soudan a récemment formulé des inquiétudes similaires sur ce barrage, qui serait, selon lui, une menace directe à la sécurité nationale soudanaise. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les ex-chefs de guerre sionistes voient la fin d'Israël s'approcher. Ce fut de loin un premier avertissement. Ce bateau piégé que la résistance palestinienne a fait foncer sur un destroyer israélien il y a 2 jours et que le communiqué de la marine sioniste a qualifié de menace potentielle en dit long sur l'état des frontières terrestres et maritimes de l'entité qui, tout comme son ciel, désormais exposé aux missiles solaires et aux radars de la DESA du Hezbollah, ont l'air d'un fromage à 1000 trous. Selon Dipka Feil, le premier ministre israélien qui n'a trouvé du confort qu'aux côtés de Ben Salman, quitte à annoncer avoir créé un front uni contre Biden, aurait convoqué une réunion sécuritaire dans la nuit du lundi 22 février en présence des responsables des ministères de la guerre, de la sécurité et de la diplomatie. Réunion consacrée à la perspective du retour des États-Unis à l'accord nucléaire de 2015. Ces coups de bluff de ces derniers jours obligent. Il aurait été amené, toujours selon Dipka Feil, site proche du renseignement de l'armée sioniste, à prétendre vouloir adopter une approche conflictuelle, soit opposée à celle des États-Unis. Selon les sources de la radio Cannes, Netanyahu a trouvé peu de soutien à l'approche conflictuelle qu'il a préconisée sur la question. Les ministres de la Sécurité, de la Guerre et des Affaires étrangères, ainsi que le chef d'état-major et certains chefs de la sécurité préféraient s'en tenir au dialogue avec Washington. En Iran, ces descriptions quasi épiques des dirigeants militaires et politiques d'un Israël qui ne parvient même plus à faire un usage correct de leurs radars et satellites si longtemps vantés et à repérer les drones du Hezbollah capables de s'infiltrer droit en Galilée en plein exercice militaire dit d'envergure ou à contrer les bateaux piégés qui font désormais leur apparition sur les côtes gazières israéliennes, prêtent à sourire. Elles prêtent à sourire d'autant plus que même les colons n'y croient plus. eux dont le nom a été directement cité dans le dernier discours du secrétaire général du Hezbollah, qui a affirmé « Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous allons riposter à tout acte belliqueux. Vous bombardez nos villes, nous ferons de même. Vous bombardez nos villages, nous ferons de même. Vous prétendez frapper des sites militaires et vous en avez aussi dans vos régions. Nous avons pu protéger nos régions et nos villages dans les années 1990 en frappant des colonies sionistes à chaque fois que nos villages subissaient des frappes. » Aussi, quand le ministre de la guerre du régime sioniste déclare, lors d'une visite à la frontière libanaise, que si les menaces de Hassan Nasrallah sont mises à l'exécution, elles auront des conséquences douloureuses pour le Hezbollah, ses dirigeants et malheureusement les citoyens libanais, les colons affichent un mot de mépris bien moqueur. Les allégations de Benny Gantz, ministre israélien de la guerre, font évidemment allusion au dernier discours du secrétaire général du Hezbollah libanais. Mais pour être honnête, Israël est-il réellement en mesure d'agir contre la résistance sans le soutien des États-Unis? 130 généraux israéliens, dont anciens hauts responsables du régime, ont envoyé une lettre au chef du Parti bleu-blanc, également ministre de la guerre Benny Gantz, soulignant qu'Israël est blessé et se noie, et que Gantz doit se retirer de la course pour se sauver alors des divergences avec Washington. L'ancien ministre des Affaires étrangères Ehud Barak, l'ancien chef du Shabak Karni Guillon, l'ancien chef du Mossad Danny Yatom et d'anciens responsables du Mossad faisaient partie des généraux qui l'ont signé. Dit le Sitep Kafail qui, citant ces généraux, ajoute « Le moment est venu pour Gantz de quitter définitivement l'arène politique, car lui et les ministres qui lui sont affiliés ont adopté une politique de la terre brûlée. La confiance israélienne dans les institutions gouvernementales a été gravement endommagée. Eh bien, pour avoir combattu le Hezbollah et avoir perdu face à lui, ces soi-disant généraux savent de quoi ils parlent. Dans le dernier classement du Global Firepower Institute, qui cote les armées les plus puissantes au monde, l'armée israélienne est passée de la 18e à la 20e place en 2021. Quant aux critères de ce classement, les capacités militaires, opérationnelles, financières, ainsi que les conditions logistiques et géographiques des pays. Et dans ce classement, l'Iran devance largement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le clan de Tel Aviv ferait mieux de se retirer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait se pencher sur ces récents développements relatifs à l'Iran et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte que l'Iran, dans le cadre d'une loi adoptée par le Parlement, a décidé de mettre un terme à l'application du protocole additionnel au traité de non-prolifération nucléaire, au TNP. C'était une réaction de Téhéran au non-respect par des parties signataires de l'accord nucléaire de 2015 et de leurs engagements pris dans le cadre de cet accord. Vous le savez très bien que les États-Unis se sont retirés unilatéralement, c'était en 2018 de cet accord, mais s'agissant de la partie européenne également, des trois pays européens qui font partie de ces accords, ces trois pays aussi n'avaient pas honoré leurs engagements pris dans le cadre de cet accord. Cela a conduit l'Iran, en fait, à prendre cette décision dans le cadre, comme je viens de vous le dire, d'une loi adoptée par le Parlement iranien. Finalement, l'Iran a en fait annoncé sa décision de suspendre, si vous voulez, sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne l'application, j'insiste sur ce point, l'application du protocole additionnel au TMP. Sinon, l'Iran continuera de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le cadre de l'accord de garantie, c'est-à-dire la coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique se poursuivra, mais il y a désormais la suspension, si vous voulez, du protocole additionnel, la suspension, l'arrêt de tout accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, si vous voulez, aux installations nucléaires iraniennes, en ce qui concerne, si vous voulez, l'application du protocole additionnel. Sinon, en fait, l'accord de garantie sera à appliquer, bien sûr, par l'Iran et également l'Iran reste toujours membre du TNP, traité de non-prolifération nucléaire. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou à un analyste, je ne sais pas si notre contact avec Moscou n'a pas été encore établi, mais en attendant, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation, bonjour aux téléspectateurs et on espère que M. Bohr vous rejoindra bientôt.
Espérons-le. En fait, nos amis au Régide sont en train en fait, d'établir ce contact avec Moscou. Et Maître Develet, je suis très content de vous avoir aujourd'hui comme l'invité de notre émission parce que vous êtes juriste, spécialiste des questions juridiques internationales également. Maître Develet, juridiquement parlant, comment évaluez-vous cette décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie, pas sa coopération, disons-le, de suspendre l'application du protocole additionnel au TMP dans le cadre de cette coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'il vous plaît?
Alors, tout d'abord, il est important de souligner pour nos téléspectateurs quelle est la nature de ce protocole additionnel. Le protocole additionnel, comme vous l'avez très bien souligné, encadre les visites des inspecteurs de l'Agence internationale atomique sur les sites où l'enrichissement a lieu en Iran, à la différence près que le protocole additionnel met l'accent sur ce qu'on appelle, de manière un peu cavalière, les snap inspections, ce qui veut dire qu'en fait, les inspecteurs, selon ce protocole, avaient la possibilité de faire éruption, si je puis dire, avec les délais les plus brefs, afin de prospecter, procéder à des visites surprises et inspecter donc les sites qui sont listés sur leur plan de travail. Vous l'avez très bien souligné, entre-temps et suite dans le prolongement du retrait unilatéral US de l'accord sur le nucléaire de 2015, donc le 8 mai 2018, après que les Européens aient été archiversés, négociés, plaidés, procrastinés, si je puis dire, dans leur promesse, un, de eux-mêmes continuer à respecter leurs obligations, et deux, à l'aune du retrait bilatéral des États-Unis, d'essayer de contourner l'obstacle des transactions en dollars US en instaurant un système dit INSTEX, qui serait en fait quelque part une forme de troc. Il s'est avéré que les Européens n'ont pas été en mesure de mettre en pratique leur représentation, leur proposition, voire leur promesse. Certaines n'ont pas leur obligation que leurs sociétés ont des branches de la vie et donc devenaient en espèce d'imbroglio juridique, alors même respecter leurs obligations, enfin, qu'ils souhaitaient en tout cas qu'ils avaient l'intention déclaré d'honorer leurs obligations dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Ils n'avaient pas les ambitions, ils n'avaient pas les moyens pratiques de pouvoir le faire, dans le sens où, dans la mesure où leur société serait amenée à collaborer, à investir en Iran, les États-Unis appliqueraient ce qu'on appelle les sanctions secondaires, verraient ces sociétés européennes donc être l'objet de sanctions et d'amendes très importantes. C'est d'ailleurs dans ce contexte que pour le téléspectateur, l'usine Peugeot, donc, qui avait pourtant projeté un taux de production de 450 000 véhicules par an dans le cadre de son retour sur le marché iranien, s'est vu obligé d'annuler, de retirer ce que les Chinois se sont empressés de remplir, de combler ce vide. Donc l'Iran n'a rien perdu par rapport à ça. La Chine a parfaitement, elle, honoré ses obligations. voilà, mérite d'être
signée. Maître de volée, là, vous soulevez en fait un point très, très intéressant, me semble-t-il. Vous l'avez dit que voilà, la France était présente, si vous voulez, sur le marché iranien. Vous venez de mentionner, si vous voulez, l'exemple de Peugeot. Mais la France, comme vous l'avez dit, a dû en fait se retirer du marché iranien sous la coupe des sanctions américaines. Autrement dit, en fait, la France, malheureusement, en quelque sorte, par crainte de ces sanctions américaines, a quitté le marché iranien. Et maître de volée, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a en fait critiqué cette récente prise de position du côté de l'Union européenne, de la partie européenne également, et a qualifié, si vous voulez, de trop exigeante et d'injuste et erroné, si vous voulez, cette position adoptée par la partie européenne, alors que la partie européenne, si vous voulez, comme vous l'avez dit, comme je viens de le dire également tout à l'heure, n'a pas respecté malheureusement ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne, maître de volée.
Oui, tout à fait. En fait, cela soulève la question de savoir si les Européens avaient les moyens de leurs ambitions politiques d'être des parties co-contractantes avec la souveraineté nécessaire pour pouvoir, en ce qui les concernait, en tout cas, honorer leurs obligations. Or, c'est ce qu'on a entendu depuis le début. Les Européens valorisaient l'accord, y trouvaient leur compte. Et dès que les Américains se sont retirés, les Européens se sont retrouvés dans une situation où, de facto, dans le cadre de leur mise en œuvre de leurs obligations, ils ont été amenés en fait à eux-mêmes, si je puis dire, violer l'esprit du traité, puisque comment voulez-vous prétendre d'un côté rester dans l'accord et faire le nécessaire pour que l'esprit et les intentions initiales des parties soient honorées quand vous-même vous n'avez pas les moyens d'honorer vos propres obligations à cause de sanctions qui seraient éventuellement brandi contre vos sociétés. Donc ça prouve bien que l'Europe est un nain politique, que si les États-Unis décident de se retirer, les Européens, quelque part, j'allais presque dire par défaut, même si nominalement ils déclarent rester dans l'accord, en n'honorant pas leurs obligations, en n'exécutant pas ce qu'on attend d'eux, il est de toute évidence les Européens ne sont pas en mesure d'être des parties sur lesquelles on peut compter. Je voulais juste rajouter pour l'ouverture, donc cet état de fait, si vous voulez, a amené la République islamique d'Iran étant un état souverain, à prendre acte de cet état de fait, donc suite au retrait unilatéral américain, et le Parlement iranien, dans son pouvoir souverain, a décidé donc de passer cette loi permettant à l'Iran de réagir et donc de prendre des mesures, certes possiblement intermédiaires, puisque le ministre des Affaires étrangères, M. Zarif, a bien souligné que pour peu que les États-Unis reviennent dans l'accord en comment dirais-je, en suspendant les sanctions et en mettant en œuvre ce qu'il devait faire dès 2015, cette loi serait bien sûr revisitée et conditionnée à l'exécution des obligations américaines.
Merci beaucoup, et maître de voler fort heureusement, Fabrice analyste politique et spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre pour cette émission depuis Moscou. On va partir tout de suite à Moscou pour rejoindre Monsieur Beurre. Monsieur Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, notre contact n'a pas été encore établi avec Moscou, et en fait Monsieur Beurre aujourd'hui reste toujours et encore injoignable. On va poursuivre notre débat avec vous, Maître Develet. Maître Develet, vous l'avez en fait dit, cette prise de position du côté des États-Unis également est fort bien en fait intéressante. Les États-Unis se sont retirés, si vous voulez, de l'accord nucléaire, et dans l'état actuel des choses, au lieu, par exemple, de compenser leur erreur, leur politique injuste qui était celle de pression maximale adoptée contre l'Iran, reste toujours en fait exigeant à l'égard de l'Iran, mais il n'est pas question pour l'Iran de se laisser intimider, si vous voulez, par ce langage menaçant de Washington. On vient en fait de souligner l'exemple, si vous voulez, de la position adoptée par le leader de la République islamique d'Iran, qui dit que voilà, l'enrichissement de l'uranium qui se situe actuellement au niveau de 20% peut atteindre les 60% si le besoin du pays l'exige, c'est-à-dire suivant les besoins du pays. Comment expliquez-vous cette prise de position ferme du côté de Téhéran, qui avait appliqué, si vous voulez, jusqu'à présent, le protocole additionnel, disons-le, volontairement, pour, si vous voulez, montrer sa bonne foi, mais Téhéran suspend désormais l'application de ce protocole pour protester contre le non-respect, si vous voulez, des engagements pris par d'autres parties signataires de l'accord. Mais comment expliquez-vous cette fermeté de Téhéran de vouloir faire, si vous voulez, valoir ses droits légitimes dans le cadre de l'accord nucléaire?
Alors, ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est que l'accord de 2015 n'est qu'un élément d'un régime dit de non-prolifération, dans lequel, par défaut, l'Iran fonctionne, à défaut de l'exécution par toutes les parties de l'accord de 2015. Il y a un régime de non-prolifération nucléaire qui est cristallisé par un traité, le NPT, hein, comme son nom l'indique, le traité de non-prolifération nucléaire, qui, pour peu que les parties signataires révèlent qu'ils cultivent l'énergie nucléaire, ont le droit de développer l'énergie nucléaire dans un contexte civil. Et là, l'Iran est parfaitement dans son droit de revenir au statu quo ante par défaut et de développer, ainsi que son statut de signataire du NPT depuis après, l'énergie nucléaire nécessaire pour compenser l'énergie fossile. Donc ça ne pose absolument aucun problème en droit. Je dirais même que, quelque part, le ton de la déclaration du leader de la République islamique d'Iran laisse entendre en filigrane qu'il ne va pas se laisser ligoter par ce qui est devenu une situation de fait, à savoir que si une des parties à l'accord sur le nucléaire de 2015 de remplir ses obligations, la perception qui ne peut découler de cet état de fait eu égard à cet accord, c'est qu'en fait l'accord a été mis en œuvre pour donner une espèce de frein à ce qui existait déjà comme droit légitime de l'Iran sous le régime général de l'accord du traité de non-prolifération nucléaire. Donc, quelque part, c'est une manière de réaffirmer non seulement le droit souverain à l'Iran en conformité avec le droit international et avec ses obligations selon la signature du traité de non-prolifération nucléaire, de poursuivre le développement nucléaire à des fins civiles, mais aussi de bien laisser, de bien envoyer le message aux parties co-contractantes de l'accord pour le nucléaire que ce traité ne saurait, en l'état des choses, être utilisé pour essayer d'influencer l'opinion publique quant au fait que l'Iran excéderait le pourcentage d'enrichissement que le traité était supposé mettre en œuvre pour peu que ces dernières et les Occidentaux aient rempli leurs obligations. Les Occidentaux n'ayant pas rempli leurs obligations, de facto, et par le biais de la déclaration du leader, et par le biais du projet de loi, enfin, de la loi et du décret adopté par le Parlement iranien exerçant sa souveraineté, l'objectif de développement d'enrichissement jusqu'à 60% est parfaitement légitime et parfaitement légal.
Maître de Velit, nous venons en fait de parler de cette position adoptée par, si vous voulez, ces trois pays européens qui a été en fait vivement critiqué par Téhéran. Nous venons également de parler un peu de cette position adoptée par la nouvelle administration américaine à l'égard de l'Iran, qui est quand même une position ambiguë et de contradictoire, parce que d'un côté, si vous voulez, les autorités américaines de Washington disent vouloir revenir, si vous voulez, à l'accord nucléaire pour en fait appliquer en bonne et due forme cet accord nucléaire. Et de l'autre côté, ils disent que voilà, toutes les sanctions contre l'Iran sont maintenues. C'est-à-dire que voilà, nous sommes déterminés à maintenir cette politique de sanctions contre l'Iran. Mais Maître de Velit, la prise de position adoptée par Moscou et Pékin était fort bien intéressante. Les autorités russes disent que voilà, si l'Iran a décidé, si vous voulez, de suspendre le protocole additionnel, de réduire ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire, la faute revient pas à Téhéran, mais si vous voulez, à Washington, aux États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire. Et également, la faute revient à la partie européenne qui n'a pas honoré ses engagements. La position adoptée par Pékin également, Maître de Velit, était fort bien intéressante. Aujourd'hui même, un responsable chinois avait en fait appelé les États-Unis à agir rapidement pour lever les sanctions contre l'Iran. Il a dit que voilà, nous sommes dans une situation sensible, névralgique. Les États-Unis devront agir rapidement pour lever les sanctions contre l'Iran. Les Chinois et les Russes aussi se sont rendus compte qu'il n'est pas question pour l'Iran en fait de revenir ou bien de renoncer à ses droits sans la levée complète des sanctions, Maître de Velit.
Écoutez, oui, en fait, on assiste à une espèce de dissonance cognitive en termes de presque l'appréhension de la réalité juridique des choses. Les responsables russes et les responsables chinois partagent l'analyse de la République islamique d'Iran sur la réalité juridique telle qu'elle est perceptible, et pour eux leur positionnement est un miroir du positionnement iranien, à savoir que débloquer la situation, la seule option possible et concevable serait pour les États-Unis de suspendre les sanctions et de mettre en œuvre leurs obligations, ce qui de facto les ramènerait dans l'accord. Or, ce qu'on entend de Washington est complètement cacophonique. On a un discours de campagne qui porte sur l'intention de l'administration Biden de revenir, de ramener les États-Unis dans l'accord et donc de remplir leurs obligations. On a des déclarations du secrétaire d'État qui dit que la stratégie de doctrine de pression maximale n'a octroyé aucun résultat et que, en fait, ce qui était anticipé, à savoir s'il n'avait pas eu l'accord, en fait, était en fait en train de se penser, à savoir que l'Iran reprend ses droits souverains et ne compte pas se laisser influencer par quelques discours d'intimidation, quels qu'ils soient. Mais en même temps, on a cette même administration qui revient sur les déclarations au Conseil de sécurité au mois de septembre dernier de Mike Pompeo qui s'était ridiculisé en laissant entendre que les États-Unis pouvaient appliquer, la partie remédiale les concernant découlant de l'accord sans être dans l'accord, ce qui n'a aucun sens. Et après, on apprend quelque part aussi que il semblerait que les États-Unis ne se soient pas opposés à ce que la République islamique d'Iran récupère pas moins de 8 milliards de dollars dans un contentieux qui découle plus ou moins de cette situation de pression maximale auprès de la Corée du Sud. Donc les signaux sont très contradictoires, mais en même temps cela révèle, j'allais presque dire, un certain vide, en tout cas une absence d'unicité et de cohésion dans la communication au niveau exécutif américain.
C'est-à-dire que... Merci beaucoup. Merci infiniment, maître Arnaud Develet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Parmi les importantes évolutions en Syrie, le déploiement des forces de l'armée syrienne autour de la ville d'Al-Bab sous le contrôle des milices turques, le nettoyage de 80% du désert syrien et le vol de pétrole par les forces démocratiques syriennes, figure en tête de liste. Par ailleurs, du chlore en grande quantité a été livré aux terroristes dans le but d'effectuer une opération de simulation d'explosions chimiques dans les zones résidentielles près de la frontière entre la Syrie et l'Irak, sous la supervision et le soutien direct des États-Unis. Il y a quelques jours, les forces syriennes ont été déployées autour de la ville de Tadaf, près d'Al-Bab, dans la banlieue nord-est d'Alep, au détriment de l'armée turque et des milices affiliées. Les habitants d'Al-Bab attendait avec impatience l'arrivée de l'armée syrienne, rapporte l'agence syrienne Sana. La situation sécuritaire à Al-Bab est au bord de l'effondrement. Les milices turques ont pénétré dans la ville avec force. Ils harcèlent les habitants qui ne sont pas en mesure de se défendre et ont causé la mort de nombreux civils, ont fait savoir les sources locales. Des tracts demandant l'intervention de l'armée syrienne pour chasser les occupants turcs avaient été distribués dans toute la ville qui fait partie intégrante du territoire syrien. Attaque terroriste à la périphérie de Hama et d'Idlib. Des sources syriennes ont fait état d'attaques terroristes contre des positions de l'armée syrienne à Sahl al-Gharb, au nord-ouest de Hama et à la périphérie sud d'Idlib. En représailles, des contre-attaques massives ont visé les positions des terroristes à Sahl al-Gharb, Al-Fatira, Safouhan et autour d'Al-Bara et Al-Filifal dans la banlieue sud de la ville d'Idlib. Nettoyage du 80% du désert oriental. Nizar al-Khidr, chef du comité de sécurité et militaire de la province de Deir ez-Zour, et commandant de la 17e division de l'armée syrienne, a annoncé que l'armée terrestre et l'armée de l'air syrienne ont traqué sans relâche et mené des frappes aériennes intenses contre les éléments de Daesh, nettoyant ainsi 80% du désert oriental de la Syrie. Leur camp, 6 dépôts d'armes et de munitions et leur centre logistique ont été entièrement détruits. Concernant la situation générale à l'est et l'état des routes, Al-Khidr a indiqué qu'environ 80% du désert ont été débalayés et que les routes étaient sécurisées et sûres. Interrogé sur l'éradication de tous les réseaux de Daesh, il a précisé que l'armée américaine fait obstacle aux efforts de l'armée syrienne pour vaincre Daesh. Dans les zones qu'elle occupe, elle fournit aux terroristes des armes et la technologie de la communication. Au passage, il a souligné que l'armée américaine transférait les terroristes prisonniers de Hasaké vers le désert. Rappelons que l'armée américaine a érigé illégalement une base militaire à Al-Tanf, située à l'extrême est de Homs, à la frontière entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie. « 130 frappes des avions russes contre les positions de Daesh. Les chasseurs de l'armée russe ont mené des raids contre les positions de Daesh dans les zones situées entre les provinces de Homs et Deir ez-Zour, dans le désert oriental, près de la frontière avec l'Irak. Au total, 130 frappes ont été menées au cours de 24 heures et 21 terroristes ont été éliminés. 750 terroristes de Daesh ont été tués depuis mars 2019 dans le désert oriental de la Syrie. Les milices soutenues par les États-Unis pillent les ressources syriennes. Le gouverneur de Hasaké, Hassan Halim Khalil, a déclaré que les forces démocratiques syriennes FDS ont pillé de diverses manières près de 150 millions de dollars par mois des revenus pétroliers de la Syrie avec le soutien des États-Unis. Environ 140 000 barils sont volés chaque jour dans les champs de pétrole sous leur contrôle à Hasaké. Les tankers seraient acheminés et stockés dans les entrepôts situés dans la ville d'Al-Milikia, près du Tigre, dans la périphérie de Hasaké, avant de passer en contrebande en Irak, via le passage d'Al-Mahmoudiya, a-t-il fait savoir. En 2010, la Syrie produisait près de 760 000 barils de pétrole par jour. Elle exportait son pétrole. Mais depuis que les FTS ont pris le contrôle du pétrole syrien et interdisent sa vente en vertu de la loi de César, la nation syrienne est sous une pression d'énergie. Désormais, la Syrie doit importer du pétrole et peine à le faire en raison des actions oppressives de l'Occident. Selon les informations obtenues par des sources locales, du chlore en grande quantité a été livré aux terroristes dans l'obus d'effectuer une opération de simulation d'explosion chimique dans les zones résidentielles près de la frontière entre la Syrie et l'Irak, sous la supervision et le soutien direct des États-Unis, a déclaré le militant syrien Arwa Sater au site d'information Al-Maluma, cité par l'agence presse iranienne Fars News. Sater a ajouté qu'il y a deux jours, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie avait fait état de l'envoi de plusieurs cargaisons de chlore aux groupes armés avec l'aide du groupe terroriste des casques blancs. Cette révélation de la part de la Russie a incité les forces américaines à changer la zone de l'opération vers des lieux proches de leur base, près de la frontière entre l'Irak et la Syrie. Il est certain que leur plan vise à imputer la responsabilité de l'usage d'armes chimiques prohibées aux armées irakiennes et syriennes. L'explosion attendue à Idlib ou dans les zones frontalières sera orchestrée par des casques blancs qui sont équipés de matériel d'imagerie professionnel, a-t-il expliqué. Le même scénario a été mis en scène le 4 avril 2017 dans la ville de Khan Cheikhoun, située dans la province syrienne d'Idlib. Thank you.
à qui Téhéran